Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, d'abord, quelques informations. Comme vous le savez, je suis généralement brouillé avec les dates et je vous donne toujours, en ce qui concerne les dates, des informations erronées. Mais maintenant, vous avez l'habitude, donc... Ce qui compte finalement, c'est ce qui est affiché dehors, c'est ce qui est le plus important. Néanmoins, aujourd'hui, nous allons accueillir un collègue qui est professeur au Muséum national d'histoire naturelle et qui est spécialiste de proboscidiens. Les proboscidiens sont les éléphants sans sulato. Pourquoi ? Vous verrez, parce que quand on raconte l'histoire de ce groupe, c'est 60 millions d'années d'histoire, c'est quand même une certaine tranche d'histoire. Vous verrez que sur le plan de la biogéographie, puisque c'est ce qui nous intéresse en ce moment, vous verrez que ce n'est pas complètement inintéressant. Ça, c'est ce matin. Cet après-midi. Oui, cet après-midi, j'ai invité pour 4 cours un collègue américain, Chris Bird, qui est directeur du département de l'anthropologie de ce muséum, et qui est spécialiste des anthropoïdes primitifs. C'est-à-dire, de fait, nos plus lointains ancêtres. Il fera 4 leçons. La première est cet après-midi. Alors, je vais essayer de ne pas me tromper. Ce n'est pas dans cet amphithéâtre. C'est en face, c'est dans l'amphithéâtre Guillaume Budet. Et c'est à 15h30. Me suis-je trompé ? Je suis sûr que parmi vous, il y en a qui savaient. Je ne me suis pas trompé ? Non ? Alors, ça va. Pardon ? Ah, ça, c'est une bonne question. Alors, madame, comme je sais que vous préférez que ce soit en anglais, il va parler en anglais, mais, et c'est là l'information qui vous intéresse plus particulièrement, j'ai prévu un traducteur en français, qui est d'ailleurs là-bas, qui est Édouard Georges Émonet, que vous connaissez déjà et qui a déjà fait la traduction. Donc, 15h30. Cela veut dire que aujourd'hui, on est le 20. Ce sera sa première leçon. Il y en aura 3 à suivre, 3 autres à suivre. Alors, j'imagine que la suivante, ce sera le 27. Après, ça doit faire... Après, je vais me tromper obligatoirement. Ça doit faire le 3 juin, c'est ça? Et après, le 10 juin. Puisque je suis dans les informations, le 3 juin, j'attire votre attention sur le fait que... Parce que j'ai imaginé que cela pouvait vous intéresser... voire vous divertir, voire les deux. Je crois que ça sera pour la première fois ici au collège. J'ai invité 3 collègues et vous aurez 2 ateliers de taille de silex ici, devant vous. Vous verrez des collègues tailler des silex. Le 3 juin. vous savez bien que j'attache beaucoup d'importance au fait d'essayer, à part ce que je vous raconte, de vous apporter, de vous faire rencontrer des gens qui disent des choses ou montrent des choses qui sont complètement différentes de ce que je dis. J'imagine que la taille est quelque chose d'intéressant. Alors, ça va demander quelques aménagements, hein, il va falloir une bâche, enfin, etc., etc. Mais on va le faire. Et j'ai même demandé ici à nos services de prévoir des caméras de telle sorte que, avec les caméras, ils pourront focaliser sur un tailleur et vous pourrez voir donc mieux sur écran. Parce que forcément, en étant au dernier rang, vous verrez mal. Voilà pour les informations administratives. Alors, maintenant, si j'en viens, avant que vous ne posiez la question, si j'en viens à la rubrique informations scientifiques de la semaine, il y en a eu. J'imagine que vous avez tous vu, dans la presse au moins, le fait qu'on a séquencé des Néandertals. Et puis, on en a déduit un certain nombre de choses. Alors, plusieurs choses. Première chose, il y a un article dans Science et il y a ce que l'on appelle le matériel supplémentaire à disposition qui est, pardon madame, support online. Ça, c'est 180 pages. C'est de la génétique, de la paléogénétique, et je vous avoue humblement, je n'ai pas tout lu, et de toute manière, ça ne se lit pas comme un roman. On est bien d'accord. Néanmoins, ce papier fera sûrement date dans l'histoire de la paléogénomique, dans l'histoire des paléo-ADN. Ce papier montre clairement que l'on a maintenant les techniques pour arriver à séquencer l'ADN nucléaire, hein, pas mitochondrial, nucléaire, de fossiles au moins dans le Pléistocène. Les fossiles séquencés sont dans une tranche de temps qui va jusqu'à 60 000 ans. Mais en réalité, on peut aller au moins à 100 000 ans. Ça, c'est la première chose. On a maintenant, sur le plan technologique, les outils qui permettent de faire cela. On a bien sûr les hommes aussi, les femmes, les hommes au sens générique. C'est un travail énorme quand vous imaginez que pour écrire ce papier, ils ont séquencé 4 milliards de nucléotides. Merci au logiciel et à l'informatique. Hein. Vous imaginez, si on n'avait pas ça, ça serait exclu. Tout ceci a été fait à l'Institut Max Planck de Leipzig, Allemagne. Ce département de paléogénétique au Max Planck est dirigé par un collègue qui est bien connu dans la communauté scientifique internationale, qui est Svante Paabo, Et le Max Planck à Leipzig, disons les choses très clairement, a été construit pour Svante Paabo. Svante Paabo n'est pas allemand, il est suédois. Et c'est à l'heure actuelle à la fois un leader et un pionnier dans les études d'ADN ancien. Voilà tous les points forts. Les points plus faibles. Nombre d'individus séquencés, 3 néandertaliens. Alors, surtout, retenez bien ce que j'ai dit avant. Hein. J'ai dit beaucoup de bien. Mais 3, reconnaissez avec moi que c'est pas beaucoup. Hein. C'est pas beaucoup. Nombre d'individus séquencés utilisés chez les humains actuels, 5. C'est pas beaucoup non plus. Hein. Du même coup, les conclusions qui sont données, eh bien, elles sont données à partir de 3 Néandertals et de 5 sapiens actuels. Si vous voulez mon avis, elles seront sûrement appelées à être modifiées par des études complémentaires. Néanmoins, cela veut dire clairement qu'à partir de maintenant, on va pouvoir faire de la génétique des populations, on va pouvoir faire de la génétique des populations sur des fossiles. Certes, ce sont des fossiles qui n'ont pas des millions d'années, mais en ce qui concerne les Néandertaliens, c'est possible. Alors, ce n'est pas un paléontologue dont vous savez, je vous le dis assez souvent, je prêche d'aller sur le terrain, je ne me sens pas du tout, je ne sens pas du tout de menace. Je vois là quelque chose qui va être complètement complémentaire, hein, tout à fait complémentaire. Mais c'est un bond scientifique absolument extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors, naturellement, mais ça, vous l'avez bien compris, il faut vivre avec son siècle et les collègues du Max Planck sont comme nous tous, c'est-à-dire que ces études, il faut avoir de l'argent. Et nous sommes dans une société où il faut communiquer. Il n'est pas nécessaire de bien faire, il faut aussi faire savoir. C'est comme ça. Alors après, on peut épiloguer, en discuter, mais bon, c'est comme ça. Dernier point. Dans les conclusions qu'ils ont produites là, ils arrivent à cette conclusion que les Néandertaliens qu'ils ont séquencés, je répète, trois individus, trois femelles. Sont plus éloignés des Africains. Partagent pas de gènes dérivés avec les Africains. Plus proches des Européens, plus éloignés des Asiatiques. Ça, si ça devait être confirmé, ça remet en cause le point de vue personnel que je vous ai dit. Ça veut dire que j'aurais tort. Pourquoi pas ? Il y a plein d'autres choses pour lesquelles j'aurais tort. ça voudrait dire cela que vous avez eu une migration en Eurasie et que vous avez eu hybridation entre les sapiens et les néandertals. C'est-à-dire que là, on se rapproche plus, mais je vous ai parlé de ça, de la théorie défendue par notre collègue Volpoff, qui voit, lui, une hybridation permanente. Il me semble urgent de ne pas se presser et d'attendre des résultats complémentaires. Pour le moment, retenir le fait qu'en 2010, nous allons avoir un génome complet de néandertaliens séquencés et retenir le fait qu'on peut faire de la génétique des populations sur des humains fossiles, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Extraordinaire. On a fait des progrès fulgurants sur le plan de la technique dans ce domaine. Pas que dans ce domaine, mais aussi dans ce domaine. Bon, voilà pour toutes les nouvelles. Naturellement, tout à l'heure, si vous avez des questions complémentaires, je pourrai essayer d'y répondre. Nous étions en train de parler, après, s'il vous plaît. On réservera tout à fait à la fin un temps pour les questions. Nous étions en train de parler des hominidés anciens, certes, et de paléobiogéographie. La dernière fois, je ne vous avais pas dit tout ce que je voulais dire. Je vais donc essayer de reprendre. Voilà, si vous voulez, la question qui est soulevée. Moi, j'étais plus en accord avec le modèle où les sapiens venaient d'Afrique, une migration qui venait d'Afrique et qui recouvrait d'abord l'Eurasie. On est plus dans un modèle de ce type, étant entendu que là, Afrique, ça ne va pas bien, c'est un modèle entre les deux. C'est quelque chose d'intermédiaire et il y a des collègues tels que Günther Brauer de Hambourg qui a proposé déjà des modèles intermédiaires. Alors, on verra bien, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Alors, au niveau de la paléobiogéographie, ces humains, ils vont quitter l'Afrique, tardivement, de fait, et pour la première fois, on les connaît en dehors d'Afrique, à ce point rouge-là, à Dmanisi. Bon, vous avez eu l'occasion de pouvoir rencontrer le collègue qui travaille à Dmanisi, David Lokipanidze, qui vous a présenté ces hommes de Dmanisi, 1,8 million. Ce sont à l'heure actuelle les plus anciens représentants du genre Homo connus hors d'Afrique. Une chose importante, ces homos, ils sont associés à une industrie lithique qui est relativement sophistiquée et pourtant, ils ont une capacité crânienne qui est relativement faible. Relativement faible. Manisi est un bel endroit. Vous pouvez voir ici, c'est un village médiéval. Alors, bien sûr, les fossiles ne viennent pas du village médiéval. Ils sont dessous. Voilà les fouilles, voilà un crâne de ces hommes de Dmanisi qui est en train de se sortir. Et vous reconnaissez peut-être ici, voilà David qui est là, qui est le collègue qui est venu vous parler. Il y a une faune. Il y a maintenant un certain nombre d'individus avec crâne, mandibule, post-crânien. Donc, on a maintenant une assez bonne image de ces hommes-là. Les voilà ici, sur la gauche. Voilà un spécimen. Voyez la capacité crânienne, 650 cm3. C'est quand même faible. Je vous rappelle que pour nous, les humains modernes, la moyenne est autour de 1400. Donc, vous voyez, on est quand même... Bon. Mais ces crânes sont typiquement construits selon le type Homo erectus. Typiquement. Voilà encore. Et encore. Vous remarquerez au passage, on a déjà dit ça, vous voyez que ce sont des crânes qui ont gardé ici un crâne dit en tente. C'est-à-dire que vous avez une quille médiane. Nous avons un crâne qui est comme cela. Alors que les Néandertaliens, par exemple, ont un crâne qui est complètement elliptique, en section transversale, complètement différent. Ceci, cette forme, avec la quille médiane ici, cette quille médiane, vous pouvez voir ça assez facilement le soir à 6 heures dans les transports publics. Si. Alors, peut-être pas à chaque fois, mais il se trouve que dans certains cas, la chevelure diminue et laisse apparaître des caractères anatomiques qui étaient masqués. Et quand on est coincé dans les transports publics, à Paris, on a tout loisir de faire un peu d'anthropologie. Et on peut voir ça très bien, vous verrez. Ces Homo erectus, vous vous souvenez que le collègue de Dmanisi a posé la question de savoir si ce n'était pas eux qui étaient retournés en Afrique pour repeupler l'Afrique. Ça, c'est une question ouverte. En tout cas, c'est la première fois que un humain peuple tout un continent. Cet homo, il va partir à la conquête, c'est ce qui est marqué là, de l'Eurasie. C'est ce qui est schématisé ici, d'une autre manière. Et donc, à partir de ce moment-là, vous avez des hominidés en Afrique, en Europe, en Asie. C'est la première fois que cela arrive dans notre histoire. Et ces hominidés-là, vous les retrouvez très loin jusqu'en Indonésie. Voilà quelques points sur une carte. Il y a sur cette carte-là des points en Espagne, ici, c'est Orsay. Le fameux homme d'Orsay, c'est un fragment de crâne, et ce fragment de crâne n'appartient pas du tout à un humain. J'ai vu ce fragment de crâne il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas trop ce que c'est, c'est bien du crâne, c'est sûrement pas un humain, ça serait plus volontiers un cheval, peut-être. Vous riez, mais si vous voulez, on peut jouer un jour, je peux vous amener des fragments d'os fossiles que j'ai sur mon bureau. Je peux les mettre là, et puis vous me direz ce que c'est. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Dans les fouilles que nous faisons, on a toujours des restes pour lesquels on ne sait pas trop ce que c'est. Parce que quand vous avez un os complet, ben, c'est facile. Mais quand vous avez un petit morceau qui est cassé de tous les côtés, il faut arriver à le remettre dans son contexte, ce qui parfois n'est pas évident. Voilà toutes ces cartes. Vous voyez que il est largement répandu, que ce soit, enfin, sur l'ensemble de l'Ancien Monde. Il est probable, personnellement, je le crois, c'est pas du tout une opinion admise par tout le monde, c'est discuté. Il est probable que l'homme de Flores en Indonésie, soit un descendant direct d'un Homo erectus. Alors, justement, puisque on traite de biogéographie, Flores, la spéciation s'est faite par isolement insulaire. La faune à côté de l'homme de Flores, qui est un tout petit bonhomme qui fait un mètre de haut, on a un éléphant, c'est pas le genre éléphas, c'est le genre stégodon, mais bon, c'est un proboscidien, qui est tout petit aussi, qui est nain, c'est le nanisme insulaire. Alors, vous savez que la découverte de l'homme de Flores a fait couler beaucoup d'encre et on a beaucoup discuté. Les uns disant « mais non, c'est pathologique », les autres disant « mais non », etc. Je vous ai déjà dit, je crois, que le nanisme insulaire, on connaît, et que si vous voulez, on montera une expédition dans une des îles de la Méditerranée, et je sais laquelle, je sais où aller, et à mon avis, on devrait trouver quelque chose comme ça aussi. Bien sûr. Mais dans les îles de la Méditerranée, déjà Cuvier avait signalé des gros mammifères, des éléphants qui étaient nains. Vous avez dans les îles de la Méditerranée des éléphants qui sont hauts comme ça, par rapport à 50 cm. Oui. C'est le nanisme insulaire. Des petites populations, qu'on appelle des populations pionnières, qui sont isolées et qui vont jusqu'à la spéciation. Dans la majorité des cas, le patrimoine génétique qu'elles emmènent est insuffisant et elles disparaissent. Dans certains cas, elles vont jusqu'à la spéciation. Voilà ce petit bonhomme de Flores. C'est tout petit, hein? J'ai pas de moulage à vous montrer, mais c'est de la taille de Touma. Il a capacité cérébrale, c'est moins de 400 cm3. Moins de 400 cm3. Au passage, cela veut dire qu'avec moins de 400 cm3, on a un humain qui est capable de fabriquer un outillage lithique diversifié, sophistiqué. C'est a priori ce qui semble le plus difficile à accepter pour certains. Je ne comprends pas pourquoi. vous avez ici, pour matérialiser ce que je viens de dire, les sapiens, regardez, on est dans les capacités cérébrales, les erectus, les australopithèques, et regardez, l'homme de Flores, il est là. Si, sur ce diagramme, on avait mis les chimpanzés, l'homme de Flores, il serait avec les chimpanzés. Voilà. Vous voyez par contre que son outillage lithique est sophistiqué. Sur les hominidés plus récents, vous avez aussi forcément une large répartition. Je n'insiste pas. Cette image, je vous l'ai déjà montrée. Retenons, si vous le voulez bien, que le passage du genre homo vers le continent nord-américain est récent. Récent. Autour de 15 000 ans. Tout ce qui a, à mon sens, été publié avant 40 000, 50 000, voire plus, à chaque fois qu'on a des dates relativement anciennes pour le continent américain, on n'a jamais l'artisan. À l'heure actuelle, ce qu'il y a de plus ancien, tangible, c'est la civilisation de Clovis, et c'est autour de 13-15 000 ans. Autrement dit, le continent américain, nord-américain, sud-américain, a été peuplé très récemment. Très récemment. Postérieurement au continent australien. L'Australie a été peuplée avant. Pour le moment, le plus ancien sapiens décrit, c'est celui-là, Erto. Alors, on va voir ce que nous apprend la génétique dans les années qui viennent. Oui, ça, je ne vais pas insister. En ce qui concerne les Néandertaliens, vous savez que ces humains-là, et nous, les hommes modernes, on va être conduits à subir des aléas climatiques dus aux glaciations successives. Que constate-t-on ? Eh bien, on constate qu'au cours de ces aléas climatiques, les Néandertaliens en orange ici, vous voyez, vont se réfugier dans les parties méditerranéennes, dans les parties les plus chaudes. Alors, on a l'habitude de parler des Néandertaliens comme les hommes du froid, mais ils sont assez sensibles au fait d'aller se réfugier dans des zones moins froides. Vous avez ici la même chose, plus détaillée, avec les Néandertaliens par là, les voilà ici, et les hommes modernes, de ce côté-là. Ces Néandertaliens, on les connaît bien sûr en Europe, mais vous voyez, ils vont jusqu'en Asie, ils s'étendent vers l'Est, assez loin malgré tout. Là encore, sûrement que la paléogénétique nous apprendra des choses intéressantes. Ceci, je ne vais pas insister, c'est l'ADN mitochondrial. On a parlé tout à l'heure avec l'actualité de l'ADN nucléaire. qui est bien sûr plus informatif. Ça, c'est les humains modernes qui, vous voyez, arrivent chez nous, mais vous le savez déjà, autour de 40 000 ans. Du point de vue maintenant des préférences écologiques de ces humains. Si l'on se réfère à notre groupe frère, les chimpanzés, qu'est-ce que les chimpanzés font ? Les chimpanzés sont capables de fabriquer des outils à partir des plantes. Vous savez, ils utilisent des graminées pour qu'ils taillent, pour, par exemple, manger les termites. Ils sont capables d'utiliser des outils en pierre pour casser des noix. Attention, il y a là une différence majeure. Les chimpanzés utilisent cette pierre pour casser, mais ils ne taillent pas cette pierre. Nous, nous taillons. Ils sont utilisateurs. Ils sont capables de chasser des petits mammifères, notamment des petits singes, et tout à fait volontiers, ils rajoutent de la viande à leur menu. Ceci, ils sont capables de le faire de manière planifiée et en bande pour augmenter les chances de résultat. Ils sont capables de partager la nourriture. Vous savez, on en a déjà parlé, ils ont des comportements sexuels qui sont très différents, notamment entre les deux espèces de chimpanzés. Enfin, on en a aussi parlé, ils peuvent être agressifs et cette agressivité peut aller jusqu'à la mort de l'autre. Quels sont les outils dont nous disposons pour avoir une idée sur les préférences écologiques de nos lointains ancêtres? Un outil assez classique est la géochimie isotopique. J'ai invité l'année dernière un collègue de Lyon qui vous a parlé de géochimie isotopique. En effet, on peut, par analyse, de l'émail dentaire, de l'apatite de l'émail dentaire, par analyse des isotopes stables du carbone ou de l'oxygène, on peut avoir une idée du régime alimentaire et de la température. Il s'agit du carbone 13 et de l'oxygène 18. Globalement, en zone tropicale, vous avez deux types de photosynthèse pour les plantes, photosynthèse en C3 et photosynthèse en C4. Eh bien, on est capable, par ce type d'analyse, de savoir Si ce sont les plantes en C3 qui étaient majoritaires dans le régime alimentaire, les plantes en C3 sont des feuilles, arbres, arbustes, donc on est dans un domaine boisé. Ou si ce sont des plantes en C4, ce sont des graminées. On est savane, herbe. C'est ce qui est schématisé sur cette image. À partir de là, on peut donc avoir une idée. Un, est-ce que on mangeait plutôt des graminées? Est-ce que l'on mangeait plutôt des feuilles d'arbres, arbustes? Bien évidemment, si on mange des graminées, ça veut dire qu'on est plutôt dans la savane. Si on mange des feuilles, ça veut dire qu'on est plutôt en zone boisée. Alors, globalement, c'est un peu plus complexe que cela. Vous en doutez bien. D'autant plus que souvent, il y a des pollutions. Et donc, il faut faire extrêmement attention. Ceci étant, c'est comme pour le paléo-ADN, la technologie existe et si elle est utilisée avec prudence et de manière irréprochable, on obtient de bons résultats. Ce n'est pas simple. Je suis, par exemple, en train de faire en collaboration. Moi, je n'ai pas d'équipement dans mon laboratoire pour faire ça. Autour de la faune qui accompagne Toumaï et Toumaï lui-même. Les résultats pour la faune sont publiés. Les résultats pour Toumaï, c'est encore en cours. Pour la faune, globalement, si je simplifie, à 7 millions d'années dans le bassin de Chadien, à l'endroit où a été trouvé Toumaï, vous avez un assemblage faunique qui indique à peu près autant de C4 que de C3, c'est-à-dire à peu près autant d'arbres que d'herbes, que de savanes. C'est-à-dire, de fait, un paysage mosaïque. La question maintenant, c'est de savoir, dans cette mosaïque, où vivait Toumaï, quelles étaient ses préférences écologiques. Pour le moment, je n'ai pas de réponse à ça. Et vous pensez bien qu'avant de donner une réponse, il faut y vérifier à deux fois. Parce que quand on aura donné une réponse, ça rentrera ici dans l'actualité scientifique de la semaine. Alors, mieux vaut vérifier plusieurs fois avant de dire des bêtises. À titre d'exemple, voilà ce qui a été publié sur un paranthrope. Vous connaissez les paranthropes, Paranthropus robustus. Vous voyez sur le diagramme, ici, on a des léopards, donc des carnivores, herbivores koudou, des hyènes. Voilà le robuste. Là, on a des lièvres, des babouins et puis des iracoïdes. Eh bien, ce robuste, il a un taux élevé de carbone 13. Ce qui suggère des plantes en C4, c'est-à-dire des graminées. Et probablement de la viande. Alors, on a un autre moyen, une autre approche dont je ne vous ai pas parlé, qui est aussi de calculer le rapport strontium-calcium. Ce rapport strontium-calcium est faible chez les animaux paisseurs, chez ceux qui ne mangent que de l'herbe. Il est plus fort chez les brouteurs et les carnivores. Voilà les méthodes, une des méthodes d'approche que nous avons pour essayer d'appréhender le régime alimentaire. C'est sophistiqué, mais ça marche assez bien. Si on le fait avec précaution, prudence et discernement. Alors, vous avez d'autres approches. Il est clair que quand vous voyez ce fragment d'os qui est trouvé dans la faune associée à cet hominidé qui est Australopithecus garri, il est clair que là, vous avez des traces sur ces os. Ce sont des traces de couteau. On a enlevé la viande sur ces os. Donc, de là à en déduire que le jeune homme qui est là, Gary, pouvait rajouter de la viande à son menu, il n'y a qu'un pas qu'on peut raisonnablement franchir. C'est pas étonnant, très tôt, les humains, préhumains, ont rajouté de la viande à leur menu. Alors, de manière diverse, on a sûrement été au départ charognards, et on s'est disputé avec les hyènes, les carcasses. Ceci étant, vous avez entendu ici que ça, c'est clair. Les hominidés d'Atapuerca, c'est-à-dire néandertaliens sans sous-lato, étaient cannibales. C'est-à-dire que sûrement très tôt, on a pratiqué le cannibalisme. Sûrement. Au niveau des préférences écologiques, il convient de noter qu'à l'heure actuelle, tous les hominidés qui sont connus, qui sont décrits, sont bipèdes. Mais cette bipédie, elle est bien différente entre la bipédie que l'on connaît au Miocène supérieur et la bipédie que vous pratiquez, que nous pratiquons maintenant. La bipédie que nous pratiquons, c'est une bipédie qui est exclusivement terrestre. Quand vous vous promenez dans Paris, vous ne voyez pas quelqu'un que vous suivez qui voit un petit parc avec un arbre et qui brutalement court vers l'arbre pour monter dedans. Où ça arrive peu fréquemment. Toujours être prudent. Par contre, les australopithèques, c'est clair, pratiquaient la bipédie terrestre, mais ils étaient aussi arboricoles. Donc, passaient une partie de leur temps à terre, mais une autre partie, ne serait-ce que pour dormir, dans les arbres. Enfin, plus récemment, on a parlé d'Hardy, Ardipithecus ramidus. Eh bien, le squelette d'Ardipithecus ramidus montre un, qu'il est bipède, deux, quelque chose de surprenant, c'est-à-dire que le gros orteil est comme votre pouce, opposable, et que donc la bipédie d'Ardipithecus, c'est une bipédie dans les arbres. Et avec un gros orteil opposable, il n'avait pas de voûte plantaire, il avait les pieds plats, hein, poussait sur les pieds. Donc vous voyez que ces bipédies terrestres maintenant, terrestres non permanentes, pour au moins deux grades évolutifs. Chez ces préhumains ou les humains, au niveau du dimorphisme sexuel, au niveau des canines, c'est faible. Vous l'aurez remarqué, mesdames, les hommes n'ont pas des canines qui ressortent de la bouche, quoi. Hein ? C'est un peu différent quand vous regardez des gorilles ou des chimpanzés. Hein ? Le dimorphisme sexuel au niveau des canines est fort. Là, il est relativement faible. Le dimorphisme corporel, par contre, est assez fort. Il peut aller jusqu'à 50%, ce qui est énorme. Chez les singes, c'est un tiers à peu près. Pour les chimpanzés, c'est plus chez les gorilles. Chez les humains modernes, dimorphisme corporel est plus faible, de l'ordre de 15%. Une autre méthode d'approche pour savoir ce que vous mangez est de regarder la face occlusale de vos dents et de chercher sur cette face occlusale les traces qui sont laissées par la nourriture que vous avez mangée. Quand je parle de traces, je pense à des stries ou je pense à des ponctuations. Eh bien, si l'on regarde cela, par exemple, chez ce gorille, eh bien, vous avez sur les dents, vous voyez, des grandes stries comme ça. Et on sait que son régime alimentaire est riche en feuilles. Si vous regardez sur les dents de ce chimpanzé, là, vous voyez qu'au contraire, on a des ponctuations très nombreuses Et on sait par ailleurs que son régime est riche en fruits. Si vous regardez chez ce cercopithécoïde là, vous avez des ponctuations et vous avez des stries. On sait par ailleurs qu'il a un régime riche en racines et en nourriture coriace. C'est ce que l'on appelle la micro-usure dentaire. La micro-usure dentaire vous donne une assez bonne image de ce qu'étaient les derniers repas de l'individu avant sa mort. Alors, la technique est relativement simple. Il s'agit de se construire une base de données. La base de données, eh bien, vous regardez des formes actuelles pour lesquelles vous connaissez le régime alimentaire. Vous regardez la face occlusale des dents et vous transposez cela sur des fossiles par comparaison. Alors, comme pour beaucoup de choses, cela paraît simple, mais c'est en réalité un parcours qui est souvent semé d'embûches. Par exemple, quand vous avez la chance, c'est souvent mon cas, de récolter des fossiles en zone désertique. Que se passe-t-il ? La majorité des fossiles que vous récoltez en zone désertique sont des fossiles, je vous ai déjà expliqué, je crois, qui ont été, pour un certain nombre d'entre eux, partiellement dégagés par le vent. Partiellement dégagés par le vent en désert, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le vent, il dégage de la même manière qu'on nettoie, vous dites sablé, les monuments historiques à Paris. Quand vous avez sablé naturellement les surfaces occlusales des dents, les stries et les ponctuations dont je viens de vous parler, eh bien, c'est fini, vous ne pouvez plus les utiliser. Donc, voilà une technique qui est à peu près, dans la majorité des cas, inutilisable en zone désertique. C'est comme ça. Mais micro-usure dentaire, biogéochimie isotopique, quand vous pouvez faire les deux, vous avez là une approche qui vous permet d'avoir une assez bonne image de ce qu'était le régime alimentaire. On a parlé tout à l'heure de bipédie et forcément, on se pose toujours la question, la bipédie et pourquoi ? Bien, sûrement que cette bipédie, maintenant, avec ce que l'on sait, elle ne dérive pas d'un précurseur quadrupède terrestre. Elle a une origine, c'est clair, dans un contexte arboricole. Et cette bipédie, c'était sûrement, dans une zone boisée, la possibilité pour un individu d'une certaine taille d'atteindre des branches, des extrémités relativement souples. qui n'aurait pas pu être atteinte en étant quadrupède, c'est-à-dire moins haut. Par ailleurs, cette bipédie, quand on est à terre, elle permet de transporter de la nourriture. Donc, elle permet, dans un cas, d'en attraper et, secondairement, après, de la transporter. Je pense qu'il est préférable de voir cette acquisition de cette manière, avec au moins les éléments dont nous disposons à l'heure actuelle. Par ailleurs, cette bipédie, pour se déplacer sur la terre ferme, pour avoir un déplacement terrestre, elle a un coût énergétique plus bas que la quadrupédie. Ça, c'est relativement important. Vous voyez, ici, on est à 20% de son temps dans les arbres. Et regardez, voilà la bipédie, le coût énergétique, et voilà la quadrupédie. La bipédie a un coût énergétique plus faible. Et ça, c'est une chose aussi importante. Forcément, pour avoir une idée de l'environnement, on vient de parler du régime alimentaire, pour avoir une idée de l'environnement, on peut se servir de la faune, de l'assemblage faunique associé. Quand vous avez des poissons, quand vous avez des oiseaux aquatiques, quand vous avez des crocodiles qui mangent des poissons, ça veut dire que vous avez de l'eau. Si vous avez des hippopotames ou des groupes voisins des hippopotames, clairement, vous êtes dans un milieu où il y a de l'eau. Quand vous avez des singes, vous avez de la forêt. Quand vous avez des cochons, vous avez de la forêt. Et le Deinotherium que vous voyez là est un proboscidien. Le collègue va sûrement vous en parler tout à l'heure, qui a des habitudes qui sont plus liées à des milieux boisés. Enfin, quand vous avez des chevaux, des antilopes ou des lièvres, ils sont plus liés à l'herbe, à la prairie, à la savane. Donc, les faunes en elles-mêmes vous permettent d'avoir une assez bonne idée de ce qu'était l'environnement. La semaine prochaine, le collègue qui viendra nous visiter vous parlera de l'apport de ces faunes quant à l'environnement, ce qu'elles nous permettent de dire. Mais voilà, tracé à grands traits, brossé à grands traits, des éléments principaux. À partir de là, vous avez des fossiles, vous voyez, eh bien, vous pouvez essayer de faire une reconstruction de paysage. Voilà vers quoi on tend. Ces hominidés anciens, très tôt, le genre Homo a dû pratiquer la chasse, le charognage aussi, cannibalisme, on en a parlé. Sûrement, ils construisaient quelques abris d'assez grande taille. On a sûrement des familles. on partage la nourriture avec les parents, on reste semi-nomade. On devient sédentaire très tard. Hein. La sédentarisation, c'est avec l'apparition de l'agriculture, c'est grosso modo autour de 10 000 ans. Il est clair que l'activité première est la recherche de nourriture. C'est la recherche de nourriture. Dans l'état actuel de nos connaissances, le feu n'est pas maîtrisé avant 300 000 ans. Vous avez pu lire, vous lirez des choses jusqu'à 500 000, voire 1 million d'années. Pour le moment, on n'a pas la preuve de cela. On va assister à un accroissement de taille du cerveau considérable. Et vous voyez, ça se fait finalement très tard dans notre histoire, après 1,5 million d'années, ou dans le dernier 1,5 million d'années. L'aptitude au langage, on continue à discuter. Les plus anciens outils connus, taillés cette fois, les chimpanzés, je vous le disais tout à l'heure, ne taillent pas, c'est 2,5 millions d'années. 2,5 millions d'années. Et à 2,5 millions d'années, on a une capacité cérébrale qui est entre 600 et 700 centimètres cubes. Avec Homo erectus, on peut chasser le gros gibier, des éléphants ou des animaux de même taille. Bien sûr, pour chasser ce gros gibier, c'est un travail, c'est une chasse collective, familiale ou de clan, ce qui revient au même. Alors, est-ce qu'il maîtrisait le feu ? À mon sens, la réponse pour le moment est non, mais bon, posons la question. On n'a pas de réponse scientifique claire. Ils utilisaient des artefacts pour travailler les peaux et sûrement pour fabriquer des vêtements. Le langage, on ne sait pas. Et bien sûr, la taille des outils montre de nouvelles capacités cognitives. On a une capacité crânienne avec eux qui est entre 800 et 900 centicubes. On a forcément maintenant une industrie plus dérivée. Puis on arrive aux Néandertaliens, et si vous voulez bien, comme on a parlé déjà beaucoup des Néandertaliens, nous en reparlerons la prochaine fois. Je vous remercie.